On est encore loin d'avoir tout découvert.
Bien, c'était ingénieux de sa part de nous avoir fait, mais tu sais, avoir fait un article là-dedans aussi pour dire comment c'est fait, pourquoi c'est de même. Mais on peut pas tout savoir, là.
T'sais, effectivement.
La biologiste ne peut pas tout savoir encore parce qu'ils sont encore en recherche. Il y a d'autres espèces encore à trouver. Des vieilles espèces sont encore là, là.
La science n'est encore jamais à l'arrêt. Toujours en quête de découverte.
Ah, c'est ça, là. Ce que je vais dire un gros merci à M. Martel, même si je le connais pas, mais c'est pas grave. C'est vraiment intéressant. Et on va... Est-ce que tu avais des questions là-dessus ou non?
Vraiment, j'ai trouvé ça intéressant.
Oui, hein? Moi aussi. Je pense que les auditeurs aussi. On se pose bien des questions, hein? En tant qu'humain, là.
La nature est source de questionnement.
Eh oui. Hey, on va être déjà rendu à notre première chanson.
Génial. J'ai hâte de voir quelle découverte tu vas nous faire écouter aujourd'hui.
Oui. Là, ça va moins bouger, mais ça va bouger pareil dans l'émotion.
Ah!
OK. Là, je vais essayer ça. Vu que c'est la semaine mémoriale, on va dire. Hein, on va dire, mais c'est ça. j'ai choisi... tu sais, le groupe Voice of Service, est-ce que tu le connais?
Pas vraiment.
C'est 4 anciens militaires. C'est des vétérans des États-Unis. Ils ont passé un groupe. Avant tout ça, il a été au Got Talent Talent Revend, là.
America's Got Talent.
Exactement. Puis il a gagné.
Wow.
Et en plus, il a fait une maudite belle chanson. Même si je comprends pas l'anglais, mais j'ai vu les images, là. C'est vraiment beau. Ça s'appelle Brothers. Puis ça parle des frères, puis des sœurs d'armes, puis... C'est exactement ça, là. Cette semaine, là, moi, je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire différent. Puis ça va faire un cadeau aux auditeurs à découvrir c'est quoi. Donc, on va aller avec Vox of Service. Le titre, c'est Brothers.
Wow, t'es branché dans le thème.
Oui.
Oh, ben bon. On va se retrouver juste à côté. On va se retrouver après cette chanson pour la pause à la chronique de Coralie.
Eh oui, à tout à l'heure.
The kings and queens, oh yeah, we rule the world. We smoke cigarettes, man, no regrets. Wish I could relive every single word.
We've taken different paths and traveled different roads. I know we'll always end up on the same one when we're old.
And when you're in the trenches and you're under fire,
keep you warm and safe, and we'll be carrying each other On est Bootleg Ketchup
et vous écoutez
Nike Radio.
Notre top 10. Vos 10 meilleurs succès anglophones. Vos 10 meilleurs succès francophones. Tous les vendredis dès 18h30, influencez vous-même le top 10 tout au long de la semaine avec vos artistes préférés. Michel Tédalère et Annick Baron vous les dévoilent à toutes les semaines. Notre top 10 Nike Radio, tous les vendredis dès 18h30. Soyez au rendez-vous! Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul en écoutant Nike Radio, en vous demandant « Mais où sont les autres auditeurs? Que font-ils? » Eh bien, ne restez plus seul, car les autres auditeurs ont compris que tout se passe sur le clavardage en ligne Nike Radio. Allez sur Nike.ca et créez votre pseudonyme afin de discuter et vous amuser avec les animateurs et les autres auditeurs. Nike.ca, sur la bulle jaune en bas à droite, c'est là que se trouve le party!
La radio web numéro 1 partout au Québec, Nike Radio.
Vous êtes à l'émission DGNQ avec Annick Baron.
Et Bassin Chartrand. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, on a un chat en ligne. Juste à aller sur NikeRadio.ca, cliquez sur la petite icône jaune en bas de la page à droite et vous êtes sur le chat en ligne.
On est maintenant rendu à...
La chronique de Coralie.
Salut, salut! Dans ma chronique cette semaine, j'ai en ma compagnie...
Pierre-Gabriel Couture.
Et...
Annick Baron.
Salut, salut! Comment ça va, vous autres?
Ben, ça va super bien, et vous?
Ah oui, super. Ah oui, super, moi. Toi, Coralie?
Ah ouais, oui, ça va. J'ai mis mes lumières de Noël dehors.
Ah!
Même s'il fait 20 degrés dehors.
C'est le temps des fêtes qui approche. C'est fun, ça.
Ben oui, oui, ben moi j'aime ça, la féerie de Noël avec le sapin, tout ça. Mais je ne l'ai pas encore monté, le sapin, ça va venir.
Moi, il faut que j'en achète un.
Ah, bon! Tu peux t'en acheter un petit en attendant.
Ben je pense qu'on va en acheter un avec des LED intégrés déjà dedans. Puis qu'est-ce qu'on avait vu, je ne sais pas si c'était sur Facebook qu'il avait cherché, là. Mais c'est comme des sapins... c'est toute la lumière, puis tu vas pouvoir diriger ton sapin via cellulaire. Mettons le rouge, t'as une grosse guirlande en l'entour, ou qui fait juste le bas, le rouge, après ça, le, on va dire or.
Wow! Jaune. Okay. Ça devient vraiment techno.
Ah oui! Écoute, ben, mais bon.
Ouais. ben, déjà, mon sapin, les lumières sont intégrées dedans. Tu peux changer pour blanc ou coloré ou mixte, là. Mais à choisir le bas puis le haut, puis tout ça, ouais, pas pire, ça. Mais non, moi, je vais pas changer mon sapin. Je l'aime. Mais tu sais, il vaut pas mal plus cher aujourd'hui que dans le temps. Ça a comme vraiment augmenté les sapins. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué.
Ouais, ça coûte cher parce que c'est du synthétique. Mais le naturel, c'est un peu risqué, je trouve, là, avec les feux. Quand ça sèche, ben là, t'allumes genre une chandelle à côté. Pas très le fun.
Ouais. Non, j'ai jamais eu de sapin, de vrai sapin chez moi.
Ça flambe vite, un sapin en plus.
Oui.
Et oui. Parce que faut que tu mettes de l'eau dans le fond. Après ça, il y a comme un substrat qui va aider au tronc de rester humide, on pourrait dire. Pas mouillé, mais humide. Mm-hmm. Après ça, là, c'est sûr que le monde trip sapin naturel à cause que ça sent bon. C'est vrai,
ouais,
ça
c'est
sent
vrai.
Bon.
Ouais.
Mais il faut tailler la place pour ça. Taille un sapin vraiment conforme à la règle aussi, pour pas que ça dépasse.
Mm-hmm.
Puis pour pas que ça tombe sur les affaires... sur toi, tu, ou bien sur les meubles, ou la TV, qui casse la TV, ça, c'est pas le fun.
Ah oui, non, ou les chats qui détruisent tout le sapin.
Oui, hein? Là, oui. À cette heure, pour les personnes qui trippent sur l'odeur, ils vendent des
parfums. Des sambons.
Ouais, non, mais tu sais, des bruines d'odeur de sapin de Noël que tu peux faire à l'entour de ton sapin artificiel.
Ah, ben, ça peut bien compenser pour l'odeur.
C'est
ben
ça.
Oui. À essayer. Ouais. Fait que là, est-ce qu'on jase un peu ce soir?
On jase de quoi ce soir, là? Annick, as-tu des questions pour nous autres ce soir?
Eh oui, on parlait de Noël, justement.
C'est vrai?
Ouais.
Ça parle de quoi, cette Noël-là, cette année, là? C'est-tu bon signe?
Je passerais pas, mais bon.
Ah oui, c'est un Noël le plus sel.
Plus tranquille, genre, avec des chiens. Tranquille.
Oui. Ben, au moins, on va le vivre au moins une fois dans notre vie, d'avoir un Noël.
Noël ermite.
Noël ermite.
Ben oui. Hey, en parlant de Noël, là, j'ai une bonne question pour vous autres.
Oui, vas-y donc.
Quel souvenir de party de famille à Noël qui était le préféré? Shall we begin?
Vas-y donc, toi. OK, je vais commencer. moi, c'est dans le temps... Ben, en fait, c'est du côté de mon père. Mon père a une grande famille. Tu sais, mon grand-père, il était 13 dans la famille. 13 frères et sœurs. Ça a fait une grosse, grosse famille. À cause de ça, à chaque jour de l'an, nous, dans le fond, c'était un peu bizarre parce que vu qu'on était beaucoup, ils louaient une salle le 1 et le 2 janvier. Parce que le 31, c'était une autre famille qui l'avait. Fait que nous, on a toujours eu le 1 et le 2. Ça dure 2 jours parce qu'on est tellement que c'est 2 jours le jour de l'an. Puis il y a des musiciens aussi dans ma famille qui font pas ça professionnellement, mais qui sont bons en musique. Avec accordéon, guitare, les cuillères. Puis on fait de la danse en ligne, Shania Twain.
Ah ouais.
Il y a des tirages, des vols de cadeaux. C'est fou parce que c'est dans une grande salle. Fait qu'on,
thématique, vous autres.
C'est vraiment thématique. Là. On est une gang. On est vraiment beaucoup. Puis on s'est vraiment du fun. Moi, je vais là depuis que je suis née, dans le fond. Là, parce que ça fait peut-être une trentaine d'années que. Plus que ça, parce que j'ai. Plus que ça, parce que j'ai 35 ans.
Ah oui,
ça
hein?
Ça doit faire peut-être 50 ans qu'ils louent là-bas. Peut-être plus. En tout cas, ça fait vraiment longtemps.
Qu'on se voit ce genre de...
Oui, c'est dans une genre de... C'est pas une église, là, mais c'est comme le centre communautaire de Sainte-Scolastique.
Enfin, quand il a loué la... j'allais dire la chapelle. Là. Ça doit être une chapelle, là. Un sous-sol d'église, là.
Oui, mais pas dans le sous-sol. Puis c'est comme... c'est super grand, puis il y a une scène. Il y a des chambres aussi à côté. Puis une des chambres, ils mettent toute la bouffe, toutes les chips, toutes les cochonneries. Puis t'en as une autre que c'est toutes les choses plus santé. Puis dans le corridor, quand j'étais jeune, le corridor était rempli de caisses de bière.
Ça saoulait, là.
Ah ouais, les lozons, là, c'est des... C'est vraiment des fêtards. C'est vraiment des... Oui, c'est ça.
Moi, c'est sûr que moi, depuis le temps, mon grand-père est décédé. C'était pas mal ça. On se réunissait toute la grande famille à la maison familiale. Puis on fêtait Noël tout simplement, sans nécessairement faire des jeux comme... les lozons sous l'ombre.
Ouais. Ton grand-père, c'était déguisé, tu sais, en Père Noël, toi?
Non, c'était... mon grand-père, je me rappelle plus, mais ça a déjà arrivé, il me semble que... Je pourrais plus te dire exactement, j'ai des souvenirs, là. Je sais que mon voisin d'en face venait chez nous, un peu plus tard, quand mon grand-père était décédé, puis, mais lui, il venait pour mon petit cousin qui croyait encore au Père Noël, tu sais, à la féerie de Noël, puis... Mon voisin d'en face arrivait avec une échelle, toute la patente. On riait, c'était un show, puis là, il donnait de la bière au Père Noël, toute la patente.
Il tombait en bas du toit.
Non, il était bien âgé encore, mais tu sais, il s'avançait pour la suite de la soirée, sûrement. Là.
OK.
Puis le Père Noël, il buvait de la bière chez nous.
Puis toi, Annick?
Mon grand-père, il jouait de l'accordéon, la cuillère.
Ma grand-mère aussi, elle jouait de l'accordéon.
Ah!
C'était à la mode dans
ouais,
le temps.
Oui, c'était à la mode. Mon
oncle mais c'est une perte parce que là, mon grand-père est décédé. ça fait longtemps. Là, j'avais quoi, 8 ans et demi? Là.
Oh, OK, oui.
Non, attends, je me suis trompée avec ma grand-mère. J'avais... Ah ben... Excusez. Hey, je travaillais chez Dino dans ce temps-là. Là. Il est décédé au mois de janvier, le 2 janvier.
Cette année?
Non,
j'avais 24 ans.
Oh!
24 ans, puis c'est
une dizaine d'années.
Ouais.
Ça fait 5 ans.
Ben, non! J'ai 36, ça fait que... Oui, pour ta part, ça fait 5 ans, là.
Oui, c'est ça, lui, c'est petit jeune.
C'est ça. Mais mon grand-père, là, c'était vraiment un rassembleur de toute la famille Bélanger, Baron, Ayotte, et tout ça, là. À Trois-Rivières, là. Fait qu'il faisait toutes des parties, là. Puis de Noël, surtout, il trippait, il sortait tout ça, là. Moi, je regardais ça, là, je dansais, là. C'était mes Noëls préférés, là.
Ben oui, c'est ça.
C'est vraiment les
bons. C'est le fun,
c'est à chaque fois, j'entends l'accordéon, là, dans une tourne, n'importe où, là, je passe tout à lui. Parce qu'il a fait des CD en plus. Il en a vendu quelques-uns. Mais là, quand il est décédé, toutes les affaires qu'il a faites, ça a tout été donné à Mathilde, la famille, là, le reste de la famille. Mm-hmm. Ben, ça a comme été l'héritage de la famille pour lui. Ma grand-mère n'est pas décédée. Sa femme n'est pas décédée. Elle a eu. Mais ça, c'était 88 ans cette année. Elle est encore debout, très lucide, très en forme, garde.
Ah, ça, c'est mon grand-père. Il a 92.
Wow.
Hey.
Il est en top shape.
non, mais tu sais, c'est ça. T'sais, regarde, aujourd'hui, on parle de Noël.
Oui!
C'est correct, ça.
Hey, on parle de Noël.
Oui, c'est ça. Puis, à Noël, les buffets, c'est quoi vous aimez dans les buffets de Noël?
Moi, j'aime bien les petits saucisses dans le bacon.
Les saucisses dans le bacon?
Toi, Annick, tu aimes ça, toi aussi.
Hey, yes! Hey, c'est purement québécois, là.
Oui, les petits saucisses dans le bacon, c'est un must. Tu sais, il reste, le buffet est encore full, mais hey, il reste des saucisses dans le bacon. Ah non, asti, il en reste plus.
Oh my God! Non, moi, c'était la tourtière de ma grand-mère avec du ketchup aux fruits dessus. Ça, c'était bon. Ou sinon, justement, du côté de comme des lozons, là, quand ils faisaient ça, le 1 puis le 2, c'était toutes les grand-mères qui faisaient la bouffe. Puis t'as les boulettes de viande, la dinde. Il y avait... En tout cas, c'était super bon. Là. C'est vraiment traditionnel, fois mille.
J'ai pâtisserie aussi, c'était le fun.
Ouais. Mais nous, on avait à minuit la salade froide de genre de pâtes avec des petits cornichons sucrés. Vraiment... Non, c'était super bon! Même des fois, j'ai fait, mais je ne l'ai pas goûté encore.
Je ne le goûterai pas, c'est sûr.
Mais je l'aime beaucoup. Puis, les petits sandwichs, ils sortaient là, avec cette salade-là. Là, ouais. Ça, j'aime bien ça.
J'ai une question à propos de chip, toi. Si tu étais une saveur de chip, laquelle serais-tu?
Moi, je serais Party Mix, assaisonné.
C'est Party Noël, on reste dans la thématique.
C'est vrai. Pour vrai, c'est vraiment mes chips préférés parce qu'il y a comme plein de saveurs dedans.
Mais pourquoi assaisonné? Parce que
mais il y a un assaisonné spécial en plus. C'est juste les Party Mix qui ont cet assaisonné-là. Ils sont comme un peu semi-sucrés, salés. Puis il est bon. Mais il n'y en a pas partout. Ils sont vraiment durs à trouver, ces chips-là. Il faut comme les chercher.
De moins en moins. Il y en a un peu partout à ce temps.
Non. Non, j'ai fait le tour, mais il y en a pas partout.
Ouais, c'est sûr. Mais il y en a quand même des fois. Là, mais c'est parce que Coralie va nous expliquer là, pourquoi elle aime ces chips-là. Pourquoi?
Je sais pas.
Parce que t'aimes les...
Il y a des Tostitos.
Pas les Tostitos. Genre, c'est un peu Doritos, mais c'est un nachos, en fait. Mais ouais. Les nachos assaisonnés qui sont dans ces chips-là, il oui. Y en a pas nécessairement dans d'autres sacs, genre.
Non, c'est ça. Ils font pas un sac unique de ces chips-là. Ils les mettent juste dans le Party Mix. Ceux-là, c'est mes préférés. Toi, c'est quoi?
Moi, je sais pas. Moi, j'aime pas les assaisonnés aussi, mais j'aimerais... j'aimerais possiblement être un Doritos piment infernal, parce que je dégage ça, de la chaleur.
Ouais, moi. Mais c'est pas celui-là. D'habitude, c'est les Miss Vicky's Barbecue Mauve.
Ouais, les mauves,
c'est hey, bon. C'est bizarre, ça. J'ai failli d'acheter ça, ça fait que, oh non!
Les mauves, ouais, les mauves, c'est, ben, ils sont pas mal tout bons, mais les mauves, c'est mes préférés dans les Miss Vicky's. Toi, Annick, t'es une Miss Vicky's ou t'es plus Doritos?
Et pas de Doritos, Miss Vicky un peu. Les chips bois, fumés de bois de
pommier,
c'est ça?
Ah, mais c'est ça, c'est les mauves, c'est les mêmes!
Ah, en tout cas, cette affaire-là!
C'est les mauves, hein, c'est les meilleurs. Ah.
Puis après ça, j'en ai plein, là. Mais côté sucré, là, maïs soufflé, caramel. À un moment donné, j'ai mangé ça. Mais c'est vrai, ça rentre pas des chips, mais c'est pas grave. Bon, hey, j'ai mangé ça, puis j'ai perdu mon plombage.
Ouch!
Ah, je connais ça, moi.
J'étais comme, mais voyons, c'est dans mes yeux. Fait que j'en regarde, tu sais, j'ai un bout de plombage dans les mains. Mais le reste de la dent, je l'ai emballé, là.
C'était bon,
mais là, depuis ce temps-là, j'en mange plus.
C'est sûr. Mais moi aussi, ça m'est arrivé avec des Miss Vicky's. J'étais aux États-Unis, à Atlantic City, en spectacle. Puis j'ai mangé une chip le soir, puis ça a cassé. Pire que ça, ça a cassé ma dent. Puis j'ai vécu pendant genre 2 semaines avec une dent cassée, puis je savais pas qu'elle était cassée. Eh ben, je souffrais le martyr. Ouais, c'est ça.
Hey, est-ce que vous avez déjà eu un journal intime?
Moi, j'ai déjà eu un... En fait, c'est plus le trip d'avoir ça, là, tu sais. C'est plus les filles qui ont ça habituellement, là. Mais j'ai déjà eu le trip à un moment donné de cacher un petit bouquin en dessous de mon matelas puis écrire un peu quelques niaiseries là-dedans, mais... Le buzz était assez court, là. Fait que j'ai peut-être écrit juste une page parmi les 100 pages disponibles, là. Fait que ça n'a pas fait un gros journal intime.
Pas comme moi.
De toute façon, il n'était pas nécessairement intime. C'était plus le trip d'avoir le petit cadenas là, qui était sur le livre. Là, on parle le petit cadenas. C'est un trip, tu sais.
Un jardin secret.
Oui! Moi, j'avais pas nécessairement de jardin secret à cet âge-là. Là. Aujourd'hui, ça serait différent. Là, on pourrait avoir un journal intime, parler de nos peines, etc., etc. T'sais, quand on est jeune, on ne sait pas nécessairement s'exprimer. C'est rare un enfant qui s'exprime de façon verbale. Ouais. T'sais, pas verbale, mais sous des mots, comme un adulte. T'sais. On peut plus écrire comme « Ah, je l'embrasse aujourd'hui à l'école, pendant la récréation. »
Ou comme dire à nos parents, mais surtout côté paternel, « Je t'aime », mais c'est assez tough de...
Oui, quand on est jeune, tu... Ah oui. Ah ouais? Moi, j'ai toujours été gêné un peu de ça. Moi, c'est depuis tout récemment, là, que...
Ouais.
Là, depuis que je suis parti de la Gaspésie un peu, tu sais, là, je leur transmets plus mon amour, tu sais, à ce point-là, mais...
C'est peut-être à cause que t'es un gars.
Peut-être. Mais pas sûrement, je sais pas. Pour vrai, toi, tu peux...
Moi, j'étais tout le temps en train de dire « je t'aime à ma mère », j'y écrivais des lettres à tous les jours... à mes parents. Puis, ben, moi, j'avais un journal intime, mais moi, il n'y avait pas de cadenas dessus. Moi, c'était...
Le turban.
Non, même pas.
Allô?
Puis, moi, j'étais vraiment intense dans mon journal intime. Je marquais des poèmes. Je gardais des bouts de trucs, puis je les mettais dedans. Tu sais, admettons, là, je vais tomber dans le weird, là. Mais j'avais un chat, puis j'avais gardé les moustaches de mon chat qui avait tombé. Puis je les avais gardées dedans.
OK.
En souvenir de mon chat.
Ça ne serait pas prendre le poil en place.
Les moustaches, tiens, toi.
Tu sais, au pire, non, j'allais dire d'autres choses, je ne dirais pas.
Moi, tout, mais je pense qu'on va passer à la même chose.
Non, mais elle avait des longues moustaches blanches.
C'est censuré ici. C'est censuré, on n'a pas le droit de parler.
Non, c'est pas censuré, mais en tout cas. Votre plus grande peur.
Moi, ça serait justement de me faire enlever le poil de cul pour le faire mettre dans les journaux intimes, sûrement.
Oh my God!
Blague à part.
Hey!
Et toi, Coralie?
Mon Dieu, moi, ça va être plus simpliste. J'ai peur d'être dans le noir, total.
Achète-toi une petite veilleuse.
Non, non, mais...
Il y en a une pourtant.
Oui, je l'aimerais pas.
C'est ça le pire.
Non, non, mais vraiment, le noir... Mais non, en fait, c'est pas vrai, le noir total, parce que j'étais à Hawaï dans le noir total, puis j'étais bien correcte sur le volcan. Mais... C'est... Tu sais, là, les bébites, là, genre les grosses bébites comme Coquerel, puis toutes ces patentes-là, là. Je sais pas si vous avez déjà vu Indiana Jones et le Temple perdu, là. Oui. Puis là, la fille, elle se promène, puis elle fait crunch, elle mange genre partout dans les bébites, ça monte sur elle, puis tout. Bon, ben ça, là, oublie ça. Genre, j'ai trop peur. Ouais.
Hey. Je pense...
Toi?
Ah, moi?
T'as peur de quoi, toi, Annie?
Des auteurs.
Des quoi? Des auteurs? Oh!
Des auteurs.
Oh, fais pas de j'ai le vertige.
Mais ça, ils disent, à force de pratiquer, tu viens... voyons, tu viens que t'as moins peur, mais... moi, j'habite à côté, là, il y a des chutes de la Chaudière, là. Il y a un pont, là, là-bas, là. J'ai juste traversé deux fois de ma vie. Après ça, je suis plus capable.
Ouais, ben oui, je comprends. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais c'était quand j'ai fait de la montgolfière. Parce que là, tu vois vraiment la perspective, là, puis t'es comme juste. Il y a juste un petit panier qui te tient, là. Non, ça, j'ai eu la phobie des hauteurs, mais rendu à un certain point, tu vois plus la perspective, fait que t'as plus la peur des hauteurs. C'est bizarre. Quand t'es rendu vraiment haut dans le ciel, tu le vois plus.
OK. On va passer à notre dernière question.
Oui!
Ben non, déjà la dernière, Annie.
Ah oui, déjà. C'est quoi t'aimerais accomplir un jour?
Qu'est-ce que t'aimerais accomplir un jour, Coralie? Vas-y, on t'écoute.
OK. J'aimerais ça aller au gala de la disque puis avoir un trophée, un Félix.
Avoir un Félix un jour?
Oui.
Ça serait le fun, c'est vrai. Pour ma part, c'est la même chose. C'est tout c'est un rêve qu'en tant qu'artiste québécois, qu'on caresse. Surtout si on regarde avec la télé, souvent, on voit ça aller, on se dit « ça serait le fun », mais il faut travailler fort et tout ça, mais il y a tellement plein de choses qu'on aimerait accomplir, tu sais.
Ah, c'est sûr.
Là, ça finit plus, là, on a une liste sans fin, là. Mais simplement, tu sais, d'être en santé, puis de réussir généralement, puis d'atteindre nos objectifs visés, je pense, ça peut être respectable comme souhait.
Bonne réponse.
C'est bon, ça.
Ouais. Mais là, c'est déjà la fin.
C'est déjà la fin.
Et oui.
Ah, bon.
Et oui. Mais
ça fait plaisir.
En fait, je veux vous remercier d'avoir été là dans ma chronique.
Ça fait plaisir.
Merci Annick, merci Pierre-Gabriel.
Plaisir.
Je vais vous laisser avec la chanson de la semaine. J'ai choisi une chanson de John Mayer qui est Half of My Heart. Enfin, la demi-partie de mon cœur.
La moitié de ton cœur.
La moitié de mon cœur.
Ah, c'est une bonne chanson, je la connais celle-là.
Oui. Ben, en fait, c'est lui qui me l'a fait découvrir.
Ah ouais?
Ouais, c'est toi.
Ah, bon.
C'est toi qui m'a fait découvrir ça.
Je me rappelle pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, en descendant à Gaspésie, on avait mis le CD, je m'en souviens plus c'est laquelle. Il y a tellement fait d'albums, ce genre-là.
Continuum, c'était ça? Non.
Non, genre, en tout cas, peu importe. Je pense que c'est Hurt. Pas Hurt My Heart. Breaker?
Je sais pas.
Non, ça c'est Tom Petty, ça n'a pas rapport à tout ça.
Ok, t'es quoi dans la toune?
Half of My Heart.
Donc, on vous laisse cette semaine avec la chanson Half of My Heart de John Mayer. Et sur ce, vous allez rejoindre après la pause Annick et Bastien. Salut là!
Salut!
Bye!
Salut.
la numéro 1 provinciale, N-I-K-Y Radio.
Dans 200 mètres, tournez à droite sur le chemin des Patriotes. Dans un instant, les problèmes vont commencer.
Hein? Quoi? Oh non, pas un autre problème mécanique. Qu'est-ce que je vais faire encore? On dirait que c'est toujours sur moi que ça tombe.
Tu pourrais aller dans un garage, de préférence un Uni Pro, qui fait la mécanique générale et l'entretien de toutes les marques de véhicules. Autant la vente de pneus que la réparation des silencieux, des freins et des suspensions. Qui est là depuis au moins 25 ans, minimum, et qui a fait sa renommée grâce à un article dans le Protégez-vous, car il a été le seul à Sorel Tracy à diagnostiquer le bon problème et offrir le meilleur prix.
Ok, j'ai besoin d'un garage, pas d'un miracle.
Arrête de brailler et tourne ta tête vers la droite.
Garage Christian Bernard? 1276 Chemin des Patriotes?
Oui, le meilleur garage à Sorel-Tracy. Tu peux appeler Christian et Patrick au 450-743-0154. Maintenant, va pour ta réparation et en attendant, tu pourras écouter Niki Radio.
Ah, super! Mais coudonc, je suis en train de parler avec mon téléphone, moi, là? Garage Christian Bernard, me voilà.
Une station de radio à votre image, Niki Radio.
Scream and you are shall we begin?
Bienvenue à Déjeuner Q, chers auditeurs. Ici Bastien Chartrand et Annick Baron.
Allô, allô.
Cette chanson, c'était The Final, qu'on peut facilement retrouver sur YouTube. Avoue qu'elle bouge, cette chanson.
Oui, hein.
C'est justement choisi parce que justement, elle bouge et. Ça vient d'une chanson représentée par FNAF. Et franchement, j'ai réussi à convaincre ma mère avec ça. Elle qui n'aime, qui n'aimait pas ça de base.
Qu'elle n'aime pas le voyons. J'allais dire le métal, le rock, tu veux dire?
Ouais, en fait, comme j'ai dit, c'est une chanson qui a été représentée pour FNAF et de base, elle aimait pas ce jeu-là. J'ai réussi à la convaincre avec cette chanson.
Ah, ben bravo!
La seule qu'elle aime.
Bravo!
Puis, et cette fois-ci, on s'en va avec du lourd, du très très lourd.
Bon, non, c'est pas vrai!
On sait tous que les braquages, c'est toujours un truc qui marche bien au cinéma, dans les livres, les séries, etc. Et que ce soit toute la partie de planification, les actions risquées qui s'enchaînent et évidemment la fuite des criminels, on sait toujours, c'est toujours un suspense incroyable et l'effet marche à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler des vrais braquages les plus impressionnants. Japon, le coup de bluff à 300 millions. Et on commence par un vol encore irrésolu alors qu'il est. On est en 1968 au Japon. Depuis quelques semaines, le directeur de la banque Mikulanchin Takuginko reçoit quelques lettres de menaces anonymes. S'il ne cède pas 300 millions de yens, ce qui fait environ 3 750 000 $, sa maison sera exposée à la dynamite. Inquiet, il contacte la police et expose les faits à ses employés. La vie suit son cours. Quelques jours plus tard, le 10 décembre 1968, 4 employés de la banque transportent en voiture 300 millions de yens dans des boîtes métalliques en direction de l'usine Toshiba. Alors qu'ils sont en train de rouler, un policier sur une moto leur barre la route et les arrête. Il leur explique que le domicile du directeur de la banque a été explosé et qu'ils ont reçu une alerte comme quoi la voiture serait elle aussi piégée. Les employés sortent tous du véhicule, laissant le policier se glisser sous celui-ci pour repérer la bombe, et c'est alors que de la fumée et des flammes s'échappent de sous la voiture. Le policier ordonne aux employés de s'éloigner en criant « Shit! La voiture va exploser! » Il va alors se cacher derrière un mur. Les secondes passent et aucune explosion se fait entendre.
Oh.
Lorsque les employés jettent un œil à là où était la voiture, celle-ci avait disparu. Et oui, le policier avait monté dedans et s'est échappé. Ils appellent alors leur patron, dont le domicile n'a absolument pas explosé. Ça, c'est du coup de bluff. Le génie de cette opération, c'est évidemment ce faux policier qui ment et fait croire que la maison du directeur a été dynamitée. Ce qui était parfaitement crédible, étant donné que les employés étaient parfaitement au courant de cette histoire. Pour ce qui était de la fumée et des flammes pour simuler l'explosion du véhicule, c'était seulement une sorte de feu d'artifice que le faux policier avait allumé sous la voiture. Aucune violence physique, simplement un subtil jeu qui avait commencé depuis déjà plusieurs mois avec cette histoire de lettres. Malgré 170 000 policiers sur l'enquête, celle-ci n'a toujours pas été résolue. Les pièces à conviction retrouvées sur les lieux du crime étaient la plupart des fausses, preuve pour brouiller les pistes des enquêteurs, et on peut dire que ça a marché. Ni les criminels, ni les 300 millions de yens qui, avec l'inflation, valent quand même dans les 8 millions d'euros actuels, ont été retrouvés. Pour tout vous dire, en 1988, le voleur a même été officiellement déchargé de toute responsabilité civile. Des mots compliqués pour juste dire « C'est bon, tu peux dire que c'était toi, tu n'auras aucune poursuite judiciaire. » Mais il ne s'est toujours pas dévoilé. Franchement, un grand génie à cet homme.
Ouais, hein?
C'est mal de l'encourager, je sais, mais je crois que c'est le vol le plus incroyable qui s'est passé dans toute l'histoire. Envers, le vol des diamants. Quand je vous dis que la réalité dépasse parfois la fiction, l'on y est. Si vous ne le saviez pas, envers la ville de Belgique, il existe un quartier de diamantaires où une très grande partie de la production mondiale de diamants transite. en 2000, un peu plus de 2 ans avant le vol. Un Italien du nom de Leonardo Nortabartolo. Bon, désolé pour l'italien, je vais juste l'appeler Leonardo. Donc, maintenant que c'est fait, maintenant ça installe en tant qu'importateur de bijoux dans un des bureaux du Diamond Center, un bâtiment du quartier. Il a alors accès au bureau librement et ouvre même un compte dans la banque pour posséder son propre coffre-fort dans la salle des coffres. Tout ceci était une couverture pour son plan. Observé minutieusement pendant 2 ans, le fonctionnement du centre et sa sécurité. Pour le coup, il se la joue vraiment espion avec des caméras cachées dans sa sacoche ou dans des stylos billes. Je vous le dis, c'est vraiment comme dans un film.
Ben oui, hein?
Les vieux classiques d'espion de vol. C'est exactement
mission
ça.
Mission impossible.
À peu près. Le plan est prêt le 15 février 2003. C'est comme Leonardo s'introduise dans le centre et passe au travail des 10 systèmes de sécurité mis en place. Ils utilisent entre autres de la laque pour cheveux pour désactiver les capteurs de mouvement, des couvertures en polyester pour ne pas être repérés par les caméras thermiques. Ils vont même jusqu'à mettre des sacs plastiques sur les caméras et remplacer les bandes de vidéosurveillance par des cassettes préenregistrées. Après avoir forcé les coffres, ils repartent avec le contenu de 123 des faces façon de coffre du centre, ce qui représente tout de même une somme d'environ 5 millions d'euros. C'est pas dégueu, on va se dire.
En canadien, ça fait combien? Ah, bonne question. Je sais pas.
Environ aux alentours de cette somme aussi. C'est euros, il y a environ... C'est 1,50, si je me souviens bien, en canadien.
OK.
Ça doit être un peu plus de 110 millions de dollars, environ. Leonardo s'échappe alors à 30 km d'Anvers, abandonne au bord de la route des éléments du vol contenant son ADN, qu'ils ont retrouvé le lendemain du braquage. Ils ont donc, bien évidemment, placé comme suspect numéro 1. Et devinez quoi? À peine quelques jours plus tard, il se représente au centre comme si rien n'était, pour demander si son coffre avait été pillé. Il a tenté un coup de bluff en se disant « On ne va jamais accuser un type qui viendrait sur les lieux du crime. » Bien évidemment. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, vu qu'il était le suspect principal et a donc été immédiatement arrêté. Mais qui est con?
Non, mais qui est connard?
Connard et con! Franchement...
pas de mots, là!
J'ai même pas de joke à faire là-dessus. Paris, le vol de la Joconde. Ouais, c'est impossible de voler la Joconde. Alors, peut-être, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Non.
On va souffler un peu sur les braquages énervés avec un des vols les plus bidons de tout l'État. En 1911, un peintre décide d'aller faire le croquis de la Joconde au musée du Louvre. Sauf que quand il arrive, il n'y a plus que le cadre et la toile a disparu. Alors forcément, il demande au gardien. On lui dit que la toile est peut-être chez les photographes, mais elle n'y est pas et c'est la panique totale. La Joconde a été volée. Les enquêteurs retrouvent des empreintes de doigts sur la vitre de protection de la Joconde et essaient de voir si celles-ci correspondent à celles de chacun des employés du Louvre. Mais bien évidemment, ça ne serait pas le cas, sinon... On sait tous, la vie n'est pas aussi facile. Mais qui a donc volé la Joconde, me direz-vous? Eh bien, c'est Vincenzo Perugia. C'est l'homme qui a été chargé de protéger toutes les œuvres importantes du musée avec une plaque de verre. Il est arrivé en pleine nuit, enlevé le cadre de la protection en verre, puis parti comme il est venu avec la toile sous son manteau. Aucun LM. Il a gardé la toile 2 ans sous son lit à Paris, puis quand il retourne à son pays d'origine, l'Italie, il essaie de vendre le tableau, mais l'antiquaire, à qui il souhaite le vendre, le dénonce à la police. Malchance. Vincenzo a justifié son acte parce qu'il souhaitait, en gros, rendre le tableau aux Italiens, pensant que Napoléon aurait volé l'argent comptant dans la campagne d'Italie au 18e siècle. Alors que non, la Joconde est une toile française, car Léonard de Vinci l'a vendue à François 1er bien avant ça. Donc rien à voir, idiot de 26 ans.
Oh.
Non mais sérieux. quand on parle des imbéciles de ce monde. On va se dire, il y en a qui battent des records.
Ben, les pensées sont très intelligents, mais bon, on va passer à d'autres choses.
Ça, c'est déjà étonnant qu'il n'y ait pas de record Guinness de l'imbécilité. Au Japon, l'inspecteur de la santé meurtrier. Si les braquages dont je vous ai parlé jusqu'ici ont été faits sans trop de violence physique, celui-ci a entraîné la mort par empoisonnement de 12 personnes. On est donc au Japon en 1948, dans une des banlieues de Tokyo, à la banque de Taijin. À l'époque, le Japon sous occupation américaine et un homme se présente aux employés de la banque comme agent de la santé publique au service de l'armée américaine. Il explique à être envoyé pour vacciner le personnel de la banque contre la dysenterie, une maladie grave qui est même devenue une épidémie au Japon à ce moment-là. Le voleur joue la carte du professionnel et montre comment prendre le cachet et les gouttes de liquide pour se faire vacciner. Par conséquent, les 16 personnes présentes sur place absorbent le liquide et le cachet qui s'en fait du poison. Ils se retrouvent tous au sol en quelques minutes. Le faux inspecteur de la santé peut alors récupérer un butin de 10 000 yens et c'est en fait très peu. C'est environ 2000 euros actuels. C'est ce qui est vraiment très 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 peu. Pour une banque. 10 personnes et un enfant sont morts sur le coup et deux meurent à l'hôpital pour seulement 2000 euros. L'enquête qui s'ensuit est fascinante par contre. Le poison est difficilement identifié. En premier lieu, on pense à du cyanure de potassium, de la mort au rat quoi. Ensuite, on retrouve comme indice des cartes de visite laissées sur place par le voleur, dont celle de Shigeru Matsui, un homme qui travaille justement au ministère de la Santé. Je vous arrête tout de suite, ce n'était pas lui. On cherche alors un coupable parmi les 593 personnes à qui il a donné sa carte de visite. De fil en aiguille, on remonte à un homme. Sadamichi et la Savoie. Sadamichi et la Savoie ne fournit aucun alibi et possède chez lui une somme d'argent correspondant à celle du braquage, dont il ne veut pas dire la provenance. De plus, deux des survivants reconnaissent son visage sur un portrait robot. Il est donc condamné à mort et mis en prison. En prison sera cependant jamais exécuté, car certains pensent qu'il n'est pas le coupable. L'argent retrouvé chez lui, dont il ne voulait pas dire la provenance, sera en fait issu de la vente de toiles pornographiques, et pour une question d'honneur, il ne voulait pas en parler. Et surtout, le poison identifié ne serait peut-être pas du cyanure de potassium, qui est facile à trouver, mais du cyanohydrin d'acétone. Ah. Un poison difficile à trouver, produit uniquement par les cellules de l'armée, et il n'aurait donc pas pu s'en procurer.
Par les cellules d'armée de l'américaine ou ailleurs?
Oui, c'est la section qui s'occupait justement des armes, la section chimique.
Ben, genre nucléaire un peu.
Ouais, pour les armes bactériologiques.
Ok, ouais, c'est ça.
La section chimique pour justement les maladies, quoi.
Ben oui.
Bref, on ne sait pas s'il est réellement coupable. Il mourra quand même en prison à 95 ans après y avoir passé presque 40 ans. Une histoire sordide et tout ça juste pour 2000 euros.
Ah, sérieux.
Oui, sérieux. Quand je dis qu'on peut battre des records de l'imbécilité, ça, c'est le king, le master chef de l'imbécilité.
Ouais, bon.
Tuer 12 personnes par empoisonnement juste pour 2000 euros. Come on! Autant s'attaquer à une pharmacie ou à une épicerie.
Ça va pas aller à ta job, là.
Non, mais rendu là, à ce stade-là, là.
Hey, on va voler des dindes, toi.
Voler des dindes? Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça?
Ben, il est mangé.
on pourrait faire un mimes avec ça. Quand t'as pas acheté, quand t'as pas assez d'argent pour l'action grosse.
Ouais. Hey, mais c'est ça. Fait que toutes tes affaires, c'est des personnes semi-intelligentes.
Ouais, semi-intelligentes. Le dernier, il était vraiment débile à souhait. Mais le premier, j'y tire mon chapeau. Non, que je l'encourage pas, évidemment. Mais c'était du génie. Qui aurait pensé à ça?
Moi, je me dis, ils font le plan dans leur tête. Ils sont peut-être tout seuls aussi à faire, comme tu parles d'eux autres, là.
Ben ça, comme le premier, justement, il était seul. C'était pas une organisation ou tout, c'était vraiment...
Il fait un plan à l'intérieur de son cerveau, mais en le faisant, il se retrouve dans le caca parce que là, hey, j'ai fait ça, ça marche pas là-dedans, là, faut que je retourne dans mon plan. Ça marche pas.
Ouais, il y en a qui, ouais, il y en a qui sont carrément perdus dans leurs affaires. Mais il y en a. Bravo! C'est digne d'une grande pièce de théâtre. J'aurais voulu vous en présenter d'autres, mais il y en a tellement, autant des plus imbéciles que des petites perles.
Oui.
Lequel as-tu préféré?
Ben, le dernier, là.
Le dernier.
Il s'en trouve plus.
Le dernier, j'avoue.
Alors, sérieux, là. Oh, là, là.
Faudrait presque le conseiller pour plus avoir de crime sur Terre.
Et... que le monde est fait de partout de monde.
Ouais. C'est... Enfin bon. Des plans comme ça foireux, il y en a partout. Mais avec ça, on va passer à la prochaine chanson qui pourrait peut-être bien fitter avec le thème que nous avons pris pour question d'encourager les futurs entrepreneurs, qui sait. Avec Follow Me de Tryhard Ninja. Bonne écoute à tous.
À tout à l'heure.
Savage past, whole story from the past. He rules, rules. He said, follow me. Follow, follow, follow. Over 30 years ago, when he took them down below, and tonight he walks again. So step inside, enjoy the show. Follow me.
What's up, c'est Rhythm. Vous êtes en ce moment sur les ondes de Nike Radio.
Nous avons trouvé une faille sur Nike Radio qui permet de manipuler la programmation musicale. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de modifier la programmation de Nike Radio. Pour ce faire, vous devez aller sur le site web nike.ca dans la section des demandes spéciales et choisir votre chanson préférée dans la liste. Mais attention, votre chanson va jouer seulement si elle est la plus demandée au moment où le système automatisé fera jouer une pièce. Prenez garde, cette mission risque d'être addictive. S'il devait arriver que l'envie d'utiliser les demandes spéciales vous crée du plaisir et que vous n'arrivez plus à vous en empêcher, notre organisation n'ira tout lien avec vous. Bonne chance, cette annonce va s'autodétruire immédiatement.
Le passé musical n'est pas mort. Il revit tous les samedis dès 18h. Uniquement sur Nike Radio.
Nous prenons maintenant le contrôle sonore de votre source d'écoute. Vous voici à 33 tours à l'heure. Une émission qui vous ramène dans le passé plus vite que vous ne le pensez.
Hey là là, hey, nos soirées passent vite, hein. Je suppose que c'est la même chose pour nos auditeurs et auditrices là, qui trouvent que ça déboule bien.
Le but de l'émission étant de, on s'installe entre amis autour d'une bonne table à vinyle, une bonne table tournante, puis on boit un bon verre, puis on profite du temps et ça passe vite donc.
C'est sûr.
Stand by me when the night.
Donc ici Pierre Duquet, Lucas Jalbert.
Samedi dès 18h sur Nike Radio.
Canada, Europe, Nike Radio est là pour vous. Une station iHeart Radio.
Trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot-de-la-da-toot. He blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. He was a boogie-woogie bugle boy of Company B. Plays boogie woogie bugle, he was busy as a bzzz bee. And when he plays, he makes the company jump a to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Do 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 da da do da da do do. He blows it a to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Da 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 da. The company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B.
Hey, hey, bonjour, revenue à DGNQ avec Annick Baron et Bastien Chartrand.
Hello!
Hey, t'as été surpris?
Absolument. Si jamais on m'a dit que je retournerais dans le passé un jour.
Mais Mémorial, ça sert à ça.
Bonjour, Doc.
Eh bien, en tout cas, j'ai pensé à ça, trouver des chansons. Excusez, là, parce que j'étais en émotion, c'est en fait à cause de cette semaine. Les vétérans, les femmes, il a soigné les hommes au combat aussi. Et surtout, pendant la guerre, il y avait des muses qui chantaient et qui dansaient pour eux dans les compagnies. Comme elle disait dans les chansons Compagnie B.
Ouais, c'est. Franchement, je pensais pas que tu serais aussi. Je pensais pas que t'étais aussi speedé sur le thème cette semaine.
Ben, j'ai eu le temps cet après-midi de trouver quelque chose de formidable. On parle de la toune Boogie Woogie Boogle Boy, fait par les sœurs Andrew. Andrew, c'est en anglais en tout cas. Sister. Andrew Sister. Hein. Sont plus réputés en Amérique, américain. Côté canadien, on les connaît, mais il n'a pas fait plus en plan au Canada, mais en Amérique, pendant la guerre en Afghanistan, la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont fait appeler pour faire des chansons vraiment spectaculaires parce qu'ils dansaient, ils jouaient la chanson, parce qu'ils faisaient des faciales, c'est drôle, ils embarquaient les soldats parce que c'était juste des hommes là, dans le temps.
Bref, elle servait de bonne source de divertissement, quoi. Elle servait à amuser le public,
oui,
à changer les idées, puis à détendre l'atmosphère de cette lourde période.
Comme il y a eu aussi Edith Piaf aussi dans le temps, la Deuxième Guerre mondiale, côté français Normandie, où ce qui était établi la base en attendant que ça tombait, puis tout ça, et les femmes y attendaient leurs soldats pour les soigner. Les femmes, je veux dire infirmières, docteurs, parce que eux autres, ils faisaient ça. Et la cuisine.
Ouais.
Ah, il y en avait, là, du staff, là.
Bon, ben, je pense qu'on devrait les rappeler, hein. Une situation très exceptionnelle. Oui, bonjour, madame, pouvez-vous revenir? On va vous payer très cher.
Ouais, c'est ça. Hey, puis j'ai décidé qu'on parlerait de ça. Les sisters Andrew. Les sœurs Andrew.
Parfait!
Pourquoi pas? On va commencer ça.
Hein, les sœurs Andrew qui font le tour du monde, qui vont chanter des chansons pour divertir le public. Hein, très bien payé, Sister Location.
Très bien payé, je le sais pas, mais parce que c'était dans les années de la guerre. Et ils dansaient et aussi, ouais, c'est ça, justement sur le chat, il y a vraiment le vrai, de vrai, de vrai pictogramme qui danse pendant la guerre. Sont vraiment fantastiques, sérieusement, là. Et en plus de ça, j'ai su que Christina Aguilera a repris le Boogie Woogie, mais elle a traduit ça en Candyman. C'est elle qui fait les trois filles, parce que c'est trois sœurs, puis elle est toute seule, Christina Aguilera, là. C'est elle qui a fait la toune Candyman. Candyman, c'est vraiment beau, c'est coloré, c'est plus coloré que ça, mais c'est l'histoire à travers de ça.
Wow!
Ouais, sérieusement, c'est bon. Ça. Regarde.
Franchement, tu me surprends ce soir.
Hey, je suis dans l'histoire.
ouais, tu peux pas être plus ancré que ça.
Ben oui. On va commencer par les sœurs Andrews. Sont un célèbre trio de chanteuses américaines de jazz des années 1940. Très important à le dire, 1940. Composé des trois sœurs Laverne, Andrews, Contralo, 6 juillet 1911, est décédé le 8 mai 1969. Maxine Andrews, soprano, est née le 3 janvier 1916. Elle est décédée le 21 octobre 1995. Et Patty Andrews, mezzo-soprano, elle est née le 16 février 1918. Elle est décédée très récemment, 30 janvier 2013.
Ouh, ça fait seulement quelques années.
Ouais, c'est ça. C'est là, on est quoi, 2020?
Oui, ça fait environ 7 ans.
Ouais. Née à Minneapolis, dans le Minnesota, elles sont le plus célèbre trio vocal. Close Harmony de l'histoire du jazz avec plus de 75 millions de disques vendus dans le monde en près de 40 ans de carrière. Wow.
Wow. Franchement, honneur à ces femmes.
Oui. Elle a vu pas mal des affaires. Elle naît dans les années 1910 à Minneapolis, dans le Minnesota, fille d'un immigrant grec et d'une mère américaine d'origine norvégienne. Wow!
Il y a de la culture dans cette famille-là.
Oh yes! On continue. Elle commence leur carrière dans les années 1930, inspirée des Boswell Sisters. Ça me dit quelque chose, par exemple. Boswell Sisters. C'est un petit peu le même groupe qu'eux autres, mais eux autres sont là avant eux autres. Mais ils se sont incités à ressembler à eux autres, mais avec leur version de chanson. Célèbre trio vocal à succès de l'époque, puis deviennent des stars internationales du jazz avec Bill Mir... Ah, là, c'est en anglais. Bon. Bill Mir Bis Duchesne. Je vais le dire de même. En 1937, suivi de leurs 113 chansons classées dans les hit parades américains, avec particulier celle qu'on vient d'écouter, le Boogie Woogie Boogle Boy, en 1941, Don't Sit Under the Apple Tree, 1942, Ron et Coca-Cola. Ça, j'ai trouvé pas pire. 1944, Tico Tico No Fuba, 1944 aussi, et de nombreuses collaborations avec en particulier Bing Crosby. Ça, c'est un gros nom.
Ouais, okay. Sir,
tu veux-tu savoir c'est qui?
Ouais.
Bing Crosby, de son vrai nom, c'est Harry Lillis Crosby Jr., né le 3 mai 1903 à Tacoma et mort le 14 octobre 1967 à Olcabadas. Et c'est un chanteur et acteur américain. Réputé.
Ah, c'est le fun. Ta première chanson, Bémir Bis du Chêne, ouais. On dirait de l'allemand. On dirait plus de l'allemand ou du russe qu'autre chose.
J'ai eu de la misère à le dire aussi.
Bémir Bis du Chêne. on pourrait le prononcer comme ça passerait mieux.
Oui. Le trio se sépare officiellement en 1953 avec un ultime enregistrement de 8000 songs de 1951 avec l'orchestre de Gordon Jenkins. Adaptation de la chanson française « Maître Pierre » composée par Henri Betty avec des paroles de Jacques Plante. Ça me dit quelque chose, ça, Jacques Plante. En 1948, avec des paroles anglaises de Marcus Paris, étant atteinte de cancer inopérable, Laverne cède sa place à la chanteuse Jocks Do-Young, je veux dire, en 1966. Maxime Andrews est décédé d'un infarctus en octobre 1995 à Cape Cod, le 30 janvier 2013. La dernière des sœurs Andrews Patty meurt à Los Angeles. Oh. On en fait, hein?
Non, on peut dire qu'elle est morte dans une ville heureuse.
Ouais. Et j'ai trouvé un autre article aussi qui parle d'eux autres aussi. Attends une minute.
Génial!
Qui parle de l'actrice Laverne Andrews, l'actrice, parce que parce qu'il a fait des films aussi. Hein. C'est ça, il faut se dire aussi. T'sais, il n'a pas juste chanté, il n'a pas juste été dans les parades militaires. Là, t'sais. Mm-hmm. Il a vécu leur vie en faisant leur métier qu'il adorait de faire. Sérieusement, ces années-là, là, il pouvait faire tout. Là.
Wow!
C'est wow. Là. Mademoiselle Andrews et ses sœurs Patty et Maxine étaient l'un des groupes de chants féminins les plus réussis. C'est ça qu'on a su tantôt, avec 19 disques d'or et des ventes de près de 100 millions d'exemplaires. Les sœurs ont commencé à se produire au début des années 1930, comme on l'a dit tantôt. Excusez-là, j'ai l'émotion pure, là, parce que ça n'a pas d'allure pareil.
C'est du lourd.
A commencé à se produire au début des années 30, lorsque la dépression a anéanti l'entreprise de leur père. En 1937, les sœurs marquent leur premier grand succès avec, comme on a dit tantôt...
Bémir Bis du Chêne!
Et c'est ça. Après ça, on va aller ailleurs. Des temps personnels. Autres travaux qu'ils ont fait aussi. Comment ça ça. Saison 2014-2015 à Musical, le tribut de To the Andrew Sister a été joué au Théo Ubik Cabaret Théâtre à Chicago, Illinois. Wow, OK.
Wow. Il y en a en fait du chemin.
Oui. Et le saviez-vous que le trio Andrew Sister, composé de Laven Andrew, Maxime Andrew et Patty Andrew, sont classés par ordre premier, deuxième et troisième né. L'ordre de leur naissance est aussi l'ordre de la durée de leur vie. T'as tombé sur le derrière. Laverne est décédé à 55 ans. Maxime est décédé à 79 ans. Patty est décédé à 94 ans.
Quelle ironie quand même.
Oui, puis là, j'ai d'autres affaires spéciales aussi. Là, on a fait ça. Conjoint de madame qu'on parle présentement, c'est Louis R. Rogers, 17 novembre 1948. Et il est mort en 8 mai 1967. C'est ça. Hey, bon, ça s'en est fait des enfants.
Ouais, c'est bon, ben, c'était le mari d'une chanteuse incroyable.
Ouais, mais il paraît qu'il était fin pareil, là, pour l'avoir aidé dans tout. Hein, dans
franchement,
tout
franchement, j'en doute pas une seconde.
Les deux parents étant des immigrants, un père grec et une mère norvégienne. Les Andrew Sisters ont reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour l'enregistrement au 6834 Hollywood Boulevard à Hollywood, en Californie.
Wow! Elles ont marqué l'histoire.
Sérieusement, oui. Le trio Andrew Sister, composé... OK. L'ordre de la naissance... C'est quoi que je voulais dire? Ah oui, ça! Laverne, Maxime ou Patty, aucune n'était mère biologique. ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enfant, là. Oui, mais c'est ça, tu sais, ils ont eu des enfants, mais pas deux autres. Fait qu'ils ont adopté. C'est des bonnes personnes, pareil. Wow. Tu sais, ils se sont dit, je vais aider le monde qui en a besoin. Donc...
Ils ont adopté des miracles.
Oui, donc, Maxime a adopté deux enfants, une fille, Aleta Anne, et un fils, Peter. Patty a également adopté une fille, Pam Dubois. Ah, c'est français, ça, Dubois.
Mm-hmm.
Ouais, wow. Mm-hmm. Autre œuvre qu'ils ont faite aussi. Ah, des publicités.
Ah oui, évidemment.
Laverne a fait des publicités. Télévisées pour Whiskers. C'est-tu la bouffe qu'on passe pour les chats?
Attends.
Ah oui.
C'est vraiment la bouffe.
Oh oui.
Qu'on passe pour les chats. Aussi célèbre que ça.
Oui, sérieux. La chanson Tico Tico étant utilisée et créditée comme de Andrew Sisters. Saison 2014-2015 à Musical Tribune. Andrew Sisters a été joué au Théo Ubik Cabaret Théâtre à Chicago, Illinois. Là, je vais passer à d'autres choses, une autre rubrique que j'ai trouvée. Ah, j'en trouve des affaires.
Sérieux, des détails sur ces histoires-là. On en trouve des beaux, c'est...
Ben oui, mais c'est ça, tu sais, c'est pas drama, là, tu sais, c'est... Ben, en tout cas, on va dire ça, là. Il y en a vécu, là, pareil, là. La sœur Patty Andrew, en entier, son vrai nom, c'est Patricia Marie Andrews. Pour ceux qui ne savaient pas. Née le 16 février 1918 en Minneapolis, Minnesota, États-Unis, décédée le 30 janvier 2013. C'est elle qu'on parle. Qu'elle vient de décéder.
OK, ouais.
À Los Angeles, Californie, chanteuse et artiste américaine, surtout connue dans le trio musical Andrew Sister. Je sais, je le répète tout le temps, mais c'est ça. Patty est née la plus jeune des trois enfants survivants des parents immigrés. Leur père était de Grèce.
Et leur mère aussi.
Oui, c'est ça, c'est ça. Hey, puis c'est-tu quoi? Leur mère elle s'appelait Olga. Olga.
Olga.
Olga. C'est beau.
Olga
de Norvège, enfant. Elle a commencé à chanter avec ses sœurs aînées, Laverne et Maxime. Patty, une chanteuse soprano, a reçu les rôles principaux et ses sœurs ont chanté l'harmonie. Le trio se produit autour de...
de Minneapolis.
Ouais, c'est ça, de Minneapolis. Tu veux continuer, c'est comme tu veux, là.
Mais il y a une chose que je suis curieux, genre.
Quoi?
Comment est-ce qu'Octel, que leur carrière de chanteuse a commencé? Parce qu'on dit, oui, ils ont fait beaucoup de chansons, de films, que leur mère chantait avec eux. Mais en tant que tel, comment est-ce que leur talent s'est fait connaître en premier? Je me pose cette question-là, je suis un peu curieux.
Ben, il a commencé en 1930.
Ouais, mais...
À faire des tournées, mais c'était pas pour l'armée, là, avant, là. T'sais, c'était vraiment... T'sais, ça s'est fait connaître parce qu'il a commencé à chanter, parce que dans le temps, il y avait beaucoup de endosseurs de disques.
OK.
Tu sais, les agents, là.
OK, oui,
les
oui.
Les agents. Puis là, tu sais, la mère a dit, ben là, tu sais, mes enfants chantent. Fout. Comme avec Ginette Renaud, un peu. Bon, c'est ça.
Ah, ben c'est le fun. Un peu comme The Bohemian Rhapsody.
Ouais.
Le même concept. Donc.
Mais tu continues un peu?
Ouais.
Ah, parfait.
Après la fin de leur course de vaudeville en 1932, les sœurs ont continué à se produire. À New York, en 1937, ils ont fait leur premier enregistrement avec le groupe de Léon Belasco. Pendant leur séjour, les sœurs ont attiré l'attention du responsable du disque, Jack Capp. Il les a rapidement désignés à Decca Records. Eh ben,
c'est
il a fallu que je continue à lire.
Ben oui.
Ils ont sorti leur premier single, Why Talk About Love. En 1937, bien que Why Talk About Love se soit avéré être un mauvais vendeur, le deuxième single des sœurs, une version anglaise de la chanson yiddish, Bemir Bis Dishine, 1937, To Me You're Beautiful, fut un grand succès. Les Angel Sisters ont continué à gagner en popularité dans les années suivantes. Sortant des chansons à succès telles que Hold Thing, Hold Thing, 1938, He'll Be With You in Apple Blossom Time, 1940 et Boogie Woogie Boggle Boy, en 1941. Ils ont fait des apparitions régulières à la radio et ont collaboré avec des stars dont Bing Crosby. Et avec des artistes aussi populaires tels que Glenn Miller Orchestra. En 1940, les sœurs signèrent avec Universal Pictures, apparaissant dans les films avec Abbott et Costello. Entre autres, après que les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, ils ont commencé à jouer pour les troupes, y compris à voyager à l'étranger avec l'USO, United Service Organization, en 1945. Bien qu'elles aient acquis une grande partie de leur popularité avant la guerre, les sœurs étaient surtout connues pour leur esprit patriotique optimiste pendant cette période. Les chansons à succès de l'époque de la guerre comprenaient Don't Sit Under the Apple Tree with Anyone Else But Me en 1942 et Rum and Coca-Cola en 1944. Les sœurs étaient connues pour la diversité de leurs chansons qui intègrent une large éventail de styles de boogie woogie et balançoire à calypso.
Ça, je la connais pas. Je vais l'écouter tantôt.
Ouais, ça serait une bonne idée.
Ouais.
De plus, que je pense pas qu'elle soit très connue, celle-là.
Ouais, c'est ça.
Contrairement aux autres. Et origine culturelle. Franchement, je trouve ça vraiment intéressant de voir de voir leur carrière en détail.
Ouais, ben c'est ça, là. C'était long, mais...
C'était long, mais ça en valait la peine.
Ah oui, puis on n'a pas fini encore. Hey, en 1949, toi, Patty commença à s'orienter vers une carrière solo en enregistrant I Can Dream... Dream, je veux dire. Ah, je l'aime ça avec mon anglais, moi.
I Can Dream... Can't I?
Hey, c'est ça, merci. Et l'année suivante, I Wanna Be Loved, c'est ça?
Ouais.
Hey,
ouais, c'est ça, tu l'as bien eu.
Avec ses sœurs, joue le soutien plutôt que l'harmonie. Ah bon?
Ah bon, je suis sûr.
Elle a ensuite sorti plusieurs œuvres en solo avec Decca, mais ça, je sais pas, c'est une personne, il s'est pas spécifié.
Hey, ouais.
C'est pas, en tout cas, en 1954, Petit avait quitté Decca Records. OK, c'est pas une personne, c'est...
Une compagnie.
Une agence.
Ouais.
Et ça veut tout dire. Et se concentrer exclusivement sur le travail solo. Cependant, elle a rejoint ses sœurs en 1956 et le trio a fait des fréquentes apparitions dans les boîtes de nuit et à la télévision jusqu'à Laverne soit contraint de prendre sa retraite en raison de sa mauvaise santé, bien sûr.
Ouch.
Après la mort de Laverne en 1967, Patty et Maxime se sont joints à la chanteuse Jocks Do-Young pour continuer le trio, mais ils se sont séparés pour de bon en 1968. À cette époque, les sœurs avaient sorti quelques 600 chansons, dont plus de 100 avaient fait les chartes. C'est ça, les chartes, oui.
Wow!
Et après la repopularisation de la chanteuse et artiste Beat Mittler Boogie Woogie Boogle Boy en 1973, Patty et Maxime ont joué dans le très populaire spectacle de Broadway. Félicitations.
Wow! On les applaudit!
Wow! Hey, non, là, ça vaut le coup, là. Sérieux, là, Broadway, là, wow!
Ouais, et... là, on peut vraiment le dire, elles ont marqué l'histoire.
Ouais. En Overhead, en 1974 et 75, Patty a continué à se produire en tant qu'artiste solo dans les années 1986. Et c'est ça qui finit ma chronique.
Wow!
Aïe, on a fait un voyage dans le temps.
On a beaucoup appris quand même des artistes du temps de la guerre qui ont vraiment su apporter un moral à la guerre et oui. Même avant ça.
Surtout qu'eux autres, ils en avaient besoin aussi parce que tout seul, sans divertissement, ben, c'est devine c'est quoi qu'ils font. Tu sais, ils se battent ou ben quoi, là. Tu sais.
Ça flanque un sacré coup moral.
C'est ça.
Oui, c'est durant la période de confinement, tout le monde était down. Je me fais manger à la guerre.
Exactement. Donc, on dirait un gros merci aux sisters Andrew de leur implication, de leur volonté de faire les choses.
Merci d'avoir remonté le moral au trip.
Patriotique aussi, c'est ça? Hein?
Oui.
De vivre leur pays, tout ça, ils ont avancé, ils ont foncé comme les gars à la guerre. Ils ont foncé, ils ont fait de leur affaire. Et ça veut dire une morale à l'histoire. Là.
Franchement, vous en aviez une sacrée paire.
C'est ça. Sérieusement, là, bravo. Et on finit le show là-dessus. Hein? Ça...
Ouais, je vous l'enlève, mon calot.
Ça a roulé hier soir, ça avait pas de sens, plein d'émotions.
Ça a roulé, mais franchement, c'était beau. On a vraiment plongé dans le passé. Des beaux souvenirs, bon, plus pour les parents et les grands-parents, mais des beaux souvenirs quand même qui remontent à la surface, puis j'ai adoré.
Ben merci beaucoup. On se redit à la semaine prochaine, jeudi à 18h30, pour un autre DGNQ avec d'autres beaux sujets qu'on ne sait pas encore ça va être quoi. Magie!
On le saura seulement la semaine prochaine. Donc, sur ce, on vous dit
bye-bye.
Bonne soirée, à la semaine prochaine!
Vous écoutez la seule radio qui redonne le pouvoir aux artistes Nike Radio.